Disons, l'expressionnisme, c'est un mouvement, un monde artistique allemand qui est né avant la guerre de 1914. Et en particulier, c'est un mouvement pictural. Mais une partie des peintres expressionnistes, peut-être les plus grands, les meilleurs, enfin ceux qui avaient le plus d'avenir, comme Franz Marc et j'ai oublié son prénom, enfin il s'appelait Macke, mm-hmm. sont des gens qui sont morts dans les premières années, enfin la première année de la guerre de 1914. Et ce qu'on appelle au cinéma l'expressionnisme est venu après la guerre de 1914. Par conséquent, de toute façon, c'est un post-expressionnisme. À ce moment-là, je crois, le mouvement expressionnisme en allemand était en passe de s'éteindre. Si on l'appelle expressionniste, c'est surtout parce que le film le plus célèbre des films allemands d'après-guerre était le cabinet du docteur Caligari, où les décors étaient peints dans l'esprit expressionniste. Je n'ai pas beaucoup de mémoire, enfin, je ne sais pas comment s'appelait le décorateur. Enfin, je ne sais plus, enfin, bon, peu importe, c'était quelque chose comme Heinemann, mais je ne sais pas si c'est ça, enfin, je me trompe. Bon. Oui, parce qu'il y a des décorateurs qui sont, je crois, Walter Röhrig. Walter Röhrig est quelqu'un qui a travaillé avec Murnau, mais lui-même s'était inspiré de dessins, d'esquisses qui étaient d'un peintre expressionniste. Alors, voilà l'expressionnisme proprement dit, l'expressionnisme pictural. Mais on peut élargir la notion d'expressionnisme et considérer que dans le jeu de l'acteur, dans ces films-là, il y a un style qui est, qu'on peut appeler, non seulement expressif, si vous voulez, mais vraiment expressionniste. Parce qu'il cultive, on peut dire, l'expression pour elle-même. Et qui est tout à fait différent du style naturel, enfin cherchant le naturel, que l'on voit soit dans les films américains, soit dans les films français de cette époque-là. Alors Murnau est le moins expressionniste des cinéastes allemands de son temps, parce que d'une part, il fait peu appel à la plastique expressionniste, au décor expressionniste, enfin ses décors sont plus proches de la nature, non ? Très souvent même sont des décors naturels, dans Murnau il y a des décors naturels, il y a aussi des décors en studio, mais ils n'ont pas beaucoup d'extravagance par rapport à ceux d'autres films. Même s'il est vrai que par exemple dans Faust, vous avez des routes courbes, des arbres penchés, des barrières qui sont au milieu de la route, on ne sait pas pourquoi. Et d'autre part, en ce qui concerne le jeu de l'acteur, il y a une recherche de l'expression, si vous voulez, mais il a un style très personnel, qui n'est pas qui est assez différent de cette théâtralité, ce qu'on peut appeler la théâtralité expressionniste.
Ouais. On pourrait dire aussi que Murnau, vous le dites d'ailleurs dans votre livre, vous le rattachez plus à une tradition baroque allemande ou même gothique allemande et romantique, et vous allez même assez loin puisque vous parlez des dessins de Victor Hugo par exemple, et puis bon évidemment la tradition, la filiation Goethe. Donc Murnau serait à ce moment-là quelqu'un qui aurait hérité du romantisme allemand du 19e.
La personnalité de Murnau est très forte. C'est un homme qui s'est forgé sa propre personnalité. Et par conséquent, pour toutes les personnes qui ont une personnalité forte, si vous voulez, les références sont parfois des références qui sont très loin d'eux dans l'espace et dans le temps. Bon. Par conséquent, faire de Murnau un représentant, si vous voulez, de l'art de son temps dans une limite de durée assez courte, dans un espace restreint, si vous voulez, c'est-à-dire le définir uniquement par son appartenement à l'école expressionniste, c'est trop peu, il déborde largement ce cas. Alors c'est pourquoi, dans Murnau, on trouve tout l'art de tous les temps, si vous voulez, on trouve toute la peinture, et si dans mon film j'ai fait référence à un nombre considérable d'artistes, si vous voulez, de tous les temps, c'est pour montrer, d'une part l'originalité, et d'autre part, le classicisme profond de Murnau.
Donc il en ferait la synthèse, et en même temps, bon, il a cet aspect à la fois monumental et complètement intimiste, tout à fait moderne dans le cinéma, bon, qui fait par exemple que Lotte Eisner, on appelle ce qu'elle appelle le Kammerspiel, film, donc en fait, ce correspond à l'esprit presque de Ibsen, Tchekhov, beaucoup plus à ce moment-là, avec un jeu très... Enfin, on aboutit à des films comme, par exemple, L'Aurore ou City Girl, un jeu complètement intérieur et tellement simple, tellement subtil, et tout le contraire, par exemple, d'un Conrad Veidt, même y compris dans certains films, les premiers Murnau.
Oui. Je suis allé récemment en Allemagne pour le centenaire de Murnau, et un journaliste m'a posé la question, vous êtes français, qu'est-ce que Murnau pour vous a d'allemand, enfin, qu'est-ce qui vous parle? Bon. Et j'avais répondu, c'est l'universalité. C'est-à-dire, et j'ai dit, si Murnau est un simple représentant de l'école expressionniste, à ce moment-là, bon, c'est très allemand puisque c'est en France, mais il n'a pas d'universalité car l'expressionniste n'a pas pris dans les autres pays. Bon. Et c'est pourquoi, plutôt que le comparer au peintre expressionniste, je préfère le comparer aux grands créateurs d'allemand dans tous les domaines, aussi bien en philosophie comme Kant, Hegel, etc. Bon. En musique comme Mozart, Beethoven, ou en littérature. Bon. C'est pour montrer le cas que je fais de lui. Mais je peux ajouter, pour répondre à la seconde partie de votre question, que effectivement, l'art de Murnau commence par l'extériorité, c'est-à-dire que c'est le contraire, si vous voulez, de l'art allusif tel qu'on le voit en particulier dans le cinéma de Chaplin. Un film de Chaplin est célèbre pour cela, c'est l'opinion publique, si vous voulez, qui a fait grande impression, et qui a même impressionné un autre cinéaste allemand qui s'appelait Ernst Lubitsch. C'est un art d'allusion, c'est un plan dans lequel un signe, c'est un art des signes, dans lequel on parvient à la pensée, si vous voulez, par les traces, si vous voulez, que l'intention laisse dans le comportement. Eh bien, c'est pas du tout la démarche de Murnau. La démarche de Murnau est une démarche beaucoup plus extérieure, si vous voulez. Murnau renforce l'expressivité du geste. Il renchérit, si vous voulez, sur le geste. Il n'essaie pas d'utiliser l'allusion. Mais malgré cela, il parvient aussi bien, sinon mieux, à l'intériorité, et c'est peut-être son secret. Et effectivement, dans ses derniers films, cette intériorité est extrêmement forte, en particulier, comme vous dites, dans l'horreur, et un autre film, je ne sais pas si vous l'avez cité, qui est Tabou, dans lequel la seconde partie de Tabou, c'est un miracle, si vous voulez, un miracle d'intériorité, dans la mesure où Murnau est arrivé à montrer ce qui se passait dans l'esprit des personnages, est arrivé à évoquer toute la vie intérieure, je pourrais même dire la vie de l'âme, si on peut dire, de façon en plus loin, si vous voulez, pour montrer qu'il s'est attaqué à quelque chose qui est de plus subtil, il s'est attaqué à l'invisible, il a montré l'invisible sans se servir du signe codifié, selon l'école, si vous voulez, opinion publique, et sans se servir aussi du texte, car dans Tabou, il n'y a absolument aucun texte. Enfin, il n'y a aucun sous-titre, enfin, il y a un texte, mais c'est un texte qui est uniquement emprunté à des textes réels qui sont par exemple des notes qui est en train d'écrire l'officier de police qui est chargé de la surveillance du lieu, bon, ou bien ce que lit le courrier que reçoit un prêtre, mais qui sont de pures informations et qui n'ont rien à voir, qui nous renseignent absolument aucunement sur les sentiments des personnages.
Justement, je voulais poser la question de la trajectoire de Murnau, c'est-à-dire comment on part de films bon, comme La Terre qui flambe, avec donc un aspect très terrien, je dirais L'ombre qui plane de Nosferatu, et puis effectivement La Lumière, qui est quand même un peu relative, mais La Lumière quand même de Tabou, c'est-à-dire il y a une trajectoire. Alors, bon, on part d'abord d'un cinéma, vous avez souligné l'universalité de Murnau, bon, qui débute en Allemagne et qui finit aux États-Unis, mais je voudrais savoir comment on peut comprendre une trajectoire qui part effectivement peut-être de La Terre qui flambe, qui passe par Nosferatu et qui va vers Tabou.
Chronologiquement, je ne sais pas si vous avez raison, je vois que La Terre qui flambe est postérieure
à Nosferatu.
Je crois, je ne suis pas absolument certain. Enfin, en tout cas, bon je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Enfin, je ne dirais pas, je serais peut-être pas exactement comme vous. Je pense d'abord d'une certaine façon, c'était difficile de définir la trajectoire de Murnau, et ça, il faut le dire, dans la mesure où ça c'est très regrettable, un certain nombre de ses films ont disparu. Bon, c'est-à-dire que je vois que c'est à partir de Nosferatu. Enfin, nous avons le voyage, la marche vers la nuit, parce que
Derrière
Dinard, j'ai remarqué que c'est traduit par La Marche dans la nuit. Non, c'est pas dans la nuit, c'est l'accusatif, c'est vers la nuit. C'est l'histoire de quelqu'un qui devient aveugle. Bon. Et ensuite, il y a des lacunes, et puis nous tombons sur, je me souviens plus si c'est Nosferatu ou la Terre qui flambe, enfin, peu importe. Certains éléments nous manquent, mais moi je dirais plutôt qu'il y a toujours chez Murnau une opposition de l'ombre et de la lumière, et que ces films sont faits là-dessus. Bon. Alors dans certains, c'est l'ombre qui triomphe, dans d'autres c'est la lumière, tantôt c'est à la fois les deux, enfin, il y a toujours un combat Il y a un combat incertain entre l'un et entre l'autre. Et par exemple, dans Nosferatu, la question se pose de savoir si l'héroïne est morte ou blonde. Enfin bon. Voilà comment moi-même je présenterai la question.
Et une autre question, c'était l'opposition ville-campagne. Bon, mais ça, c'est peut-être plus simple. Et comment Murnau arrive à. Bon, en fait, à